Second livre des Rois, chapitre 6, les versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Il répondit, « Allez. » L'un d'eux dit, « Consens donc à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le. » L'autre tendit la main et le prit. Amen. La croissance, ce n'est pas quelque chose qui est accessoire, mais c'est quelque chose qui est profondément indispensable. Ces hommes étaient à l'école biblique d'Élisée, comme je le disais dimanche dernier. Ils avaient un enseignant extraordinaire, et comme à chaque fois lorsque l'on se met au contact de la parole de Dieu, eh bien, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a croissance, il y a progrès. Il y a des besoins qui naissent, mais des besoins qui sont sains, des besoins qui sont légitimes et des besoins qui sont normaux. Mes frères, mes sœurs, il y a une chose qu'il faut bien graver dans notre cœur, c'est que croître pour un enfant de Dieu, c'est quelque chose qui est profondément indispensable. Il y a quelques mois de cela, nous avons réfléchi, quelques semaines de cela, parce que le temps passe vite, mais pas à ce point-là, sur la notion de rétrograde. Et pour nous, les rétrogrades, c'est ceux qui ont quitté l'Église. Mais j'avais insisté sur le fait que eh bien, les rétrogrades, ça pouvait être nous, ça pouvait être vous, ça pouvait être chacun d'entre nous assis sur notre chaise, tout simplement parce que eh bien, rétrograder, c'est ralentir. Rétrograder, c'est revenir en arrière, parfois. Et le fait même eh bien, de rétrograder dans sa piété, de rétrograder dans sa consécration, de rétrograder d'un niveau à un autre, d'un niveau, du niveau 5 au niveau 4, eh bien, c'est rétrograder. Alors que la vie de chrétienne, ça doit être eh bien, d'être au niveau 5 et de passer au niveau 6. Telle est eh bien, la nécessité pour un enfant de Dieu. Nécessité qu'il ne fait pas uniquement de sa propre volonté, mais nécessité qu'il accomplit eh bien, par le ministère du Saint-Esprit qui est en lui. Et ces hommes eh bien, constatent un besoin. Le lieu dans lequel ils se réunissent est trop petit, il n'est pas fonctionnel. Et là, ils ont à cœur eh bien, de l'agrandir, ils ont à cœur de construire quelque chose d'autre, tout simplement parce que la croissance nécessite automatiquement des besoins. C'est vrai pour une église, mais c'est vrai pour également nos propres vies spirituelles. Et je crois que la vraie question, c'est de se dire, mais comment faire pour grandir ? Quels sont les principes d'une croissance efficace. Alors, si on réfléchit de manière un petit peu banale et d'un petit peu classique, on pourra dire lire sa Bible, prier, venir à l'église. Oui, bien sûr, toutes ces choses-là sont indispensables. Mais n'y a-t-il pas eh bien, des chemins qui sont un petit peu plus, j'allais dire, sioux, et que ce texte eh bien, nous éclaire. Le premier principe eh bien, de la croissance, de l'affermissement, c'est l'affermissement des membres et de leur formation. Ça, c'est la première chose. Ce que l'on remarque ici, eh bien, c'est que ces hommes étaient assis au pied d'Élisée. La position assis dans la parole de Dieu peut avoir deux connotations. La première, extrêmement négative, lorsque l'on s'assied au pied des moqueurs. Il n'empêche que lorsque l'on s'assoit, on ancre notre position. Et la seconde, eh bien, plutôt positive, lorsque l'on s'assoit auprès de la bonne personne. Et dans la culture juive, il faut savoir que les élèves, les disciples du maître étaient assis à ses pieds. Pour nous, ça n'est qu'une tournure de phrase, parce qu'à l'école, on est assis sur des chaises, devant des tables, en train d'écrire. Mais à l'époque, eh bien, tel n'était pas le cas. C'était réellement une posture. Et lorsque l'on disait que l'on était assis au pied d'un maître, eh bien, nous l'étions réellement. Les élèves l'étaient, les disciples l'étaient réellement. Et je crois que ces hommes, ces femmes, ces hommes plutôt en l'occurrence, eh bien, étaient véritablement assis au pied d'Élisée. Ils recevaient l'enseignement d'Élisée. Ils avaient soif, et non seulement ils le recevaient, mais ils avaient soif de recevoir l'enseignement d'Élisée. Et non seulement ils avaient soif, mais ils aimaient l'enseignement d'Élisée. Et je pense que l'une des principales caractéristiques pour que eh bien, nous puissions aller plus loin et que nous puissions croître avec Dieu, c'est non seulement de recevoir l'enseignement, mais également d'aimer l'enseignement. de garder cette vision de disciple, de garder cette vision de dire, eh bien, mon souhait, mon vœu, eh bien, c'est d'être réellement comme mon maître. Je veux ressembler à Jésus. Je veux, eh bien, être enraciné dans l'enseignement de mon Dieu. Alors, dans quoi cet enseignement a vocation à nous asseoir ? Premièrement, être assis dans l'amour de Dieu. Être assis dans l'amour de Dieu, c'est toujours avoir conscience que je suis aimé de Dieu. C'est quelque chose de très simple. Certains le qualifieraient même de simpliste. Mais à quel point cela est important ? Se dire que le Dieu qui m'a aimé hier, il m'aime encore aujourd'hui. Se dire que le Dieu qui m'a accompagné hier, il m'accompagnera encore aujourd'hui. Alors, lorsque tout va bien, cette parole-là, elle nous paraît basique. Mais lorsque tout va mal, cette parole-là trouve tout son sens. Le Dieu qui a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement, j'allais dire, de croire en cette parole de manière ponctuelle, mais c'est de s'en nourrir et de se le repasser sur notre cœur. Le disciple, lorsqu'il est assis au pied du maître et qu'il veut affermir ses cordages, eh bien, il réalise cela, mais il réalise également qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, c'est une autre position qui est tout aussi glorieuse. Celle de se dire que notre salut n'est pas fonction de ce que nous faisons, mais qu'il est fonction de notre foi dans l'œuvre de Jésus. Se dire que notre position n'est pas sur la terre, mais que notre position, elle est dans le ciel. La position de l'enfant de Dieu est dans le ciel. Notre cœur est dans le ciel. Notre espérance est dans le ciel. Notre joie est dans le ciel. Et être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est quelque part, eh bien, se placer au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos soucis, c'est apprendre à voir comme Jésus voit, c'est apprendre à voir au travers notre vie, nos difficultés, au travers de l'œuvre de Christ. Cette œuvre de Christ qui nous sauve, cette œuvre de Christ qui nous rachète, cette œuvre de Christ, eh bien, qui a terrassé les œuvres ténébreuses. Je ne suis plus, je ne regarde plus mes difficultés simplement au travers, eh bien, de ce que je peux vivre aujourd'hui, mais je veux apprendre à les regarder, eh bien, avec le regard du patron là-haut, avec le regard du Seigneur là-haut. Et ça change beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas simplement une méthode couée. Parce que mes difficultés, je les vis, hein. Quand à la fin du mois, le compte en banque est un peu serré, je le vis. Lorsque je suis malade, je le vis. Et mes frères et sœurs, nous n'y échapperons pas à vivre terriblement notre humanité. Mais vivre assis dans les lieux célestes, c'est vivre dans la position d'enfant de Dieu sauvé, premièrement, bien sûr, mais également avec une vision différente des choses, c'est-à-dire avec la vision de notre Dieu. Troisièmement, l'enseignement que l'on peut recevoir, c'est d'être assis dans la doctrine, c'est-à-dire de savoir en quoi nous croyons. Et ça, c'est terriblement utile, de savoir quelles sont nos valeurs spirituelles, de savoir quelle est notre identité spirituelle. Et l'auteur aux Hébreux, eh bien, il dira, il reprochera aux Hébreux en leur disant « Mais vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants, avec lesquels, eh bien, il est nécessaire de revenir sans cesse sur les points de base, la repentance, l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes, etc. » Il manquait d'assises dans la connaissance. Connaître de manière théorique, c'est très intéressant parce que ça nous permet de vivre ensuite de manière pratique. Si je ne connais pas le code de la route, je ne pourrai jamais l'appliquer. Si je ne sais pas faire un tiramisu, je ne pourrai jamais faire un tiramisu en pratique. Et si je ne connais pas qui est Dieu, et si je ne connais pas quelle est la doctrine qui est attachée à sa personne, je ne pourrai jamais vivre une foi chrétienne. Je vivrai éventuellement une religion à la carte, mais je ne vivrai jamais la puissance de Dieu. Alors parfois l'enseignement peut être quelque peu rébarbatif. Je dirais même qu'il peut être quelque part un petit peu répétitif. Et de ce fait rébarbatif, puisqu'il est répétitif. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'imprègne en nous et qu'il fait de nous des hommes et des femmes faits et capables de grandir. Ces hommes, ce projet, ces disciples d'Élysée, ce projet n'est pas né comme ça, mais il est né parce que l'enseignement les a fait grandir. Et je dis que parfois, il est nécessaire de revenir aux bases, de revenir aux fondements. Même après des années de conversion, retrouver la simplicité de l'Évangile, je dirais même que ce n'est pas du luxe, mais que c'est essentiel. Revenir à la croix, revenir à l'œuvre glorieuse du salut, eh bien c'est essentiel. Parce que nous avons toujours besoin d'être rafraîchis et de redécouvrir Dieu sous maintes et maintes facettes. Deuxième principe, c'est le principe d'épanouissement. Alors qu'il y a eu croissance, forcément, eh bien, les gens se sentent à l'étroit. Et il y a la volonté d'être plus large. Il y a la volonté d'évoluer dans un milieu, dans un cadre plus grand. C'est normal. Lorsque vous êtes converti, vous étiez des embryons spirituels. Puis vous êtes devenus des bébés. Et puis vous êtes ensuite devenus des jeunes hommes, des jeunes filles, puis des hommes et des femmes. Vous imaginez si pour vous habiller, vous aviez toujours une barboteuse ? Ou un pyjama d'enfant, vous seriez bien embêté, non? De la même manière, on a besoin d'élargir notre foi. Jabez, dans une chronologie, vous aimez les chronologies du livre des Chroniques, non? Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et au verset 10, Jabez dira la chose suivante, eh bien, il fera cette prière. Il demandera à Dieu d'élargir. Et je crois que c'est là notre prière également. Seigneur, élargis mon cœur. Parfois, on se sent mal dans notre foi, tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas élargi notre cœur. Et l'apôtre Paul, eh bien, la parole de Dieu nous donne plusieurs axes qu'il est nécessaire d'élargir. Premièrement, les limites de notre cœur naturel. Dans la seconde aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 11, eh bien, il est dit « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. » On a un paradoxe. D'un côté, les entrailles de Paul, le cœur de Paul s'élargit, et de l'autre côté, le cœur des Corinthiens, lui, se rétrécit. Et la question que l'on peut se poser immédiatement, c'est de se dire « Est-ce que mon cœur a déjà été élargi ?» Est-ce que mon cœur s'élargit de jour en jour? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde à pouvoir rentrer dans mon cœur. Qu'il y a de plus en plus de personnes à pouvoir rentrer dans mon cœur. Ou bien, au contraire, est-ce que mon cœur se rétrécit? Et est-ce qu'auparavant, il y avait une multitude de préoccupations pour les autres et que maintenant, ça se cantonne à mon mari, ma femme, mon chien, ma piscine? Le chien est un labrador selon la formule consacrée. Normalement, puisqu'il y a croissance, mon cœur devrait grandir en proportion. Les soucis devraient grandir en proportion. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Que mon corps grandit, mais que mon cœur, lui, se rétrécit, ce qui génère, ou ce qui risque de générer à un certain moment, quelques troubles et quelques difficultés. Le premier axe d'épanouissement, c'est mon cœur, c'est mon amour. L'amour n'est pas aveugle, l'amour n'est pas mou, l'amour n'est pas laxiste, je le répète. Mais l'amour, c'est une réalité Et la première chose qui se passe lorsque l'on aime, c'est que l'on souffre avec. C'est que l'on prend en considération, déjà dans notre cœur, dans nos prières, mais dans nos gestes, celui ou celle qui en a besoin. Sommes-nous sous un phénomène d'élargissement ou au contraire sur un phénomène de rétrécissement? Parce que dans la vie chrétienne, je ne crois pas du tout à la stabilité. Deuxième critère d'épanouissement, c'est que notre Dieu nous parle de sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification, nous le savons, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Mais cette sanctification, c'est le fruit de la foi en Jésus-Christ, premièrement, mais c'est également la résultante du Saint-Esprit en nous. Ok ? C'est-à-dire, tu veux être un peu plus saint, eh bien, tiens-toi un peu plus près de Jésus. Et plus tu te tiendras près de Jésus, et plus le péché sera en horreur dans ton cœur. C'est le principe de base que l'on connaît. À partir du moment où je ne me tiens pas près de Jésus, alors c'est le péché qui triomphe de ma vie. Ça, c'est garanti. Soit la prière adressée vers Dieu nous séparera du péché, soit le péché nous séparera de la prière, et donc de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je me sanctifie? C'est-à-dire que je me tiens près de Jésus. Eh bien, il élargit mon potentiel. Il élargit les limites de ma possibilité. Il élargit les limites de mon inspiration. Il élargit les limites, eh bien, de ma puissance toute relative. Il élargit les limites de ma connaissance toute relative. Et par quelle manière? Au travers des dons spirituels, notamment. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le don des guérisons, le don des miracles. Nos limites sont élargies. C'est-à-dire que là, de manière ponctuelle, eh bien, nous avons cette capacité à exercer, à exercer au nom de Jésus des choses tout à fait extraordinaires. J'insiste sur le nom, sur le terme ponctuel et sur le terme au nom de Jésus. Personne n'est dépositaire de quoi que ce soit. Mais de la même manière, il élargit nos limites et nos possibilités en nous donnant des armes qui sont profondément spirituelles. La prière, la parole de Dieu, nous donne eh bien, une autorité, le nom de Jésus nous donne une autorité dans les lieux célestes. Et lorsque nous prions dans le nom de Jésus, eh bien, il se passe des choses. Lorsque nous prions dans le nom de Jésus, eh bien, des situations changent. Les situations bougent. Qu'on le voit ou pas, nous le croyons. Et nous sommes les dépositaires d'une autorité. Nous le faisons au nom d'eux. Jésus nous connaît. Dieu nous connaît au travers de Jésus. Et nous connaissons Jésus. Donc nous ne reporterons pas nus comme les fils de Séba. Il y a un élargissement de nos possibilités humaines, mais il y a un élargissement de notre nature humaine. Et j'aime bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en nous et il prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. C'est-à-dire que ce que nous ne sommes pas capables de faire, que ce que nous ne sommes pas capables de changer, eh bien le Saint-Esprit, lui, est capable de le faire. L'amour que nous ne sommes pas capables de manifester, eh bien Jésus et le Saint-Esprit le prend dans le caractère de Jésus et il nous le communique. La sainteté que nous ne sommes pas capables de manifester, eh bien le Saint-Esprit le prend dans le caractère de Jésus et nous le communique. La joie que nous ne sommes pas capables d'avoir, eh bien nous l'avons en potentiel au travers du fruit de l'Esprit qui a été semé en nous, la maîtrise de nous, nous l'avons en potentiel au travers du fruit de l'Esprit qui a été semé en nous. Et nos possibilités humaines sont ainsi élargies. Et lorsque nous demandons à notre Dieu d'élargir l'espace de notre tente, l'espace de notre cœur, l'espace de nos possibilités, il le fait toujours, parce que ça, c'est dans sa volonté. Là, c'est dans sa volonté. Je bénis Dieu, parce que nos limites ne sont pas un problème. Je bénis Dieu parce que nos restrictions ne sont pas un problème. Mais que si on croit de tout notre cœur que le Saint-Esprit est capable de nous changer, si nous croyons de tout notre cœur que eh bien, le Saint-Esprit est capable de nous modifier, d'élargir nos limites, quelles qu'elles soient, eh bien, il le fera. Quelles sont tes limites? Quelles sont les limites qui te font mal? Quelles sont les limites qui te blessent? Quelles sont les limites, finalement, que tu n'es pas capable de maîtriser, que tu n'es pas capable de toucher? Ou plutôt, devrais-je formuler la chose de la manière suivante? Quelles sont les limites que Dieu veut repousser? Et je lis les deux sujets. Tu as grandi, tu te sens mal dans ta foi aujourd'hui. Comme un gamin se sentirait mal dans des chaussures de taille 20 alors que ses pieds font du 38. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont grandi et qui, après 15 ans de conversion, fonctionnent toujours comme au début. Et c'est exactement la même image. Et il y a même peut-être pire. Il y a des chrétiens qui avaient chaussé des chaussures de taille 38 et qui sont revenus à mettre des chaussures de taille 20 et qui ont mal aux pieds. Le Seigneur voudrait tellement élargir. Élargir ton cœur. Élargir tes possibilités, ta puissance, élargir ton caractère, ta nature humaine. C'est sa volonté. Et à partir de ce moment-là, tu retrouveras un souffle nouveau dans ta foi. Tu retrouveras une identité nouvelle. Tu retrouveras une joie nouvelle. Mais simplement, ne nous comportons pas comme au début. Ne vivons pas notre vie de piété comme au début, mais toujours dans cette volonté d'épanouir et de faire grandir. Troisième principe que l'on voit dans ce texte. Premier, c'est des disciples qui sont enseignés et qui aiment ça. Deuxième, ce sont des disciples qui veulent s'élargir et qui ne se contentent pas de rester comme ils sont. Troisième principe, c'est le principe que j'ai qualifié d'initiative. Personne ne leur dit « ce serait bien qu'eux », mais c'est eux-mêmes qui vont prendre l'initiative d'eux. Allons. Ça fait penser au verset que Yann a pris en introduction du culte, lorsque Jésus nous ordonne d'aller vers les nations, de leur prêcher la bonne nouvelle, de les baptiser au nom de Jésus et de leur enseigner à observer tout ce qui est prescrit. On pourrait disserter sur les différentes phases, mais nous ne le ferons pas ce matin. Il y a un ordre. Allez. Et je crois que nous sommes tous susceptibles, à un moment donné, d'avoir sur notre cœur cette notion qui nous dit « allez ». Allez, c'est changer de position. C'est passer d'un point A à un point B. Alors pour nous, dans notre conception, on le voit de manière géographique, mais on pourrait très très bien le voir également de manière spirituelle. Et il y a un mouvement, et c'est sur ce mouvement-là que j'aimerais m'arrêter. Qu'est-ce qu'on est doué pour les constats? C'est vrai, hein? Je constate que ça, ça ne va pas. Je constate que ça, dans la vie de mon mari, c'est une véritable catastrophe. Je constate que ma femme ne sait toujours pas faire cuire les croque-monsieur correctement. Elle les fait toujours cramer. Qu'est-ce que je fais? Soit je peux simplement le constater, m'arrêter à ça, et lui en faire la remarque chaque fois qu'ils sont brûlés. Soit je peux lui acheter un minuteur. Mais dans ce cas-là, je vais. Je suis dans cette optique déjà de dire, il y a un problème, je le constate, je vais. Soit je peux les faire cuire moi-même, mais je pense que j'aurais également besoin d'un minuteur. La tsunamite, dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, elle va perdre de vue son bien-aimé. En chapitre 5, Et elle est sur sa couche, elle ne fait que penser à lui, et elle se languit. Et là, elle prononce ces paroles extraordinaires. « Je me lèverai et j'irai vers mon bien-aimé. » Parfois, elle aurait pu simplement constater qu'elle l'avait perdu. Elle aurait pu se contenter de prier et de simplement voir son bien-aimé, de prier pour que son bien-aimé revienne. Non, elle ne va pas agir ainsi. Elle va non seulement le constater, elle va en souffrir, elle va certainement prier, espérer qu'il revienne, mais elle va se lever et franchir un chemin assez compliqué parce qu'elle va rencontrer des gens qui vont lui faire du mal en cours de route, mais elle va vouloir le retrouver. Et je crois que pour s'épanouir et pour grandir avec Jésus, il ne faut pas simplement faire ce constat de dire « j'ai besoin de grandir », ce qui, je le redis, est une lapalissade pour un enfant de Dieu, mais j'identifie là où je veux grandir et je mets en œuvre les moyens nécessaires pour le faire. Je vais. Je suis à un point A, je vois un point B, je ne me contente pas de voir le point B, mais je me mets en route pour le point B. Tout comme ces hommes ont constaté un besoin et ils se mettent en route pour le combler. C'est vrai au niveau d'une communauté, mais c'est surtout vrai pour nous individuellement, pour notre vie chrétienne. Et procrastiner, je pense que c'est dans le génome de bien des enfants de Dieu. Je sais que ma vie de prière n'est pas suffisante. Je le constate. Je sais que je ne lis pas suffisamment la parole de Dieu. Je le constate. Je sais que j'ai besoin, eh bien, de faire vraiment de vraiment plus aimer mes ennemis. Je le constate. Je prie souvent pour que les prédications ne soient pas qu'une énumération de constats, mais qu'ils génèrent une action, un aller. Finalement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle nous révèle, et puis ensuite, le Saint-Esprit nous aiguillonne. Parce que nous sommes des chevaux, j'ai pas dit des ânes, qui ont parfois besoin d'être éperonnés de manière à avancer. Et c'est là tout le ministère du Saint-Esprit. Oula, allez, encore 5 minutes, ça marche? Je vous dis que c'est la conclusion pour vous faire patienter, mais c'est pas vrai, je vous préviens. Quatrième principe, le principe du perfectionnement. Pour bien croître, il faut apprendre à perfectionner les choses. Et là, le perfectionnement, il se situe dans un lieu bien particulier. Où est-ce qu'ils vont aller planter la nouvelle école biblique? Ou chercher les nouvelles poutres? Près du Jourdain. Ah! Et le Jourdain, c'est quoi? C'est le symbole du baptême, ok? Ouais. Et le baptême, ça symbolise quoi? La mort à soi-même. Lorsque je me fais baptiser, l'ancien Olivier, il rentre dans le baptistère. Du moins, c'est la symbolique. Hein. Il rentre dans le baptistère et lorsque le pasteur le ressort, eh bien, c'est le symbole, c'est que c'est un nouvel Olivier qui sort. Le problème, c'est qu'il y a le haut de mes genoux qui sont toujours les mêmes. Donc, l'eau n'était pas assez haute lors de mon baptême. Ça explique beaucoup de choses. De la même manière, les objets du temple, ils ont été forgés, fondus, hein, dans la vallée du Jourdain. Et je crois, mes frères et sœurs, que le perfectionnement de nos vies, l'un des principes pour se perfectionner et pour affiner les choses, c'est de mourir à soi-même, ou de l'apprendre, et de l'accepter. Je ne peux pas croître, Jésus ne peut pas grandir, si moi-même je ne meurs pas. Mon cœur, c'est une boîte. Et si je n'enlève pas un petit peu de moi, Jésus ne peut pas prendre la place. Ils sont allés construire leur temple, leur maison, leur école biblique près du Jourdain. Mourir à soi-même, ça mériterait une prédication que je ferai certainement sur plusieurs phases un jour. Mais c'est la chose suivante, de manière très schématique. C'est-à-dire, ce n'est pas ma volonté qui s'applique, mais c'est la volonté de Dieu. Aussi difficile cela soit-il, aussi lourd cela soit-il, aussi douloureux cela soit-il, j'accepte tout simplement que ce soit mon Dieu qui décide. La mort à soi-même, je la compare souvent à Gethsémané, vous le savez. Ce lieu où Jésus a accepté la mort de la croix théorique, que la mort de la croix théorique devienne une réalité. A accepté que la possibilité de l'abandon devienne une réalité. Qui a accepté que la théorie de la trahison devienne une réalité. Qui a accepté que la théorie qu'ils doivent souffrir devienne une réalité. C'est-à-dire qu'il est passé du premier point de cette notion où il connaissait la théorie, où il a été enseigné, entre guillemets. Je parle d'une manière schématique. Au point 4, il a dû la mettre en action. Et c'est comme ça qu'a éclos la plus belle œuvre qui soit, l'œuvre de la croix. Comment Joseph, ce gamin prétentieux et orgueilleux, je suis dur, pourtant pas forcément très loin de la vérité, est-il devenu le numéro 2 du royaume d'Égypte? Tout simplement parce qu'il a été fondu. Son caractère a été fondu. Fondu par la trahison de ses frères, fondu par la prison, fondu par trahison et la déception. Mais qu'est-ce qu'il en est ressorti? Un homme de Dieu remarquable, qui a béni sa famille et dont Dieu a pu se servir. Et surtout, un homme réparé, un homme soigné et un homme capable de pardonner à ceux qui l'avaient vendu et trahi. C'est ça l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. C'est ça l'œuvre que Dieu fait dans notre cœur. Et comment nous perfectionner si nous restons finalement les maîtres de ce que nous voulons faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Si je n'accepte pas d'être fondu. Mes scories, elles restent et elles demeurent toujours. Toujours. Quelque part, on y est tous toujours un petit peu dans le creuset. N'est-ce pas là qu'on apprend à connaître qui est Dieu réellement? Si je n'accepte pas de mourir avec Jésus, comment est-ce que je pourrais ressusciter avec lui? Comment? Un autre point. C'était le principe de participation de tous. Il n'y en a pas qu'un qui a construit toutes les poutres, mais chacun a construit une poutre. Je passe rapidement là-dessus et je conclue. Ça, c'est la vraie conclusion. Alors, de quoi a-t-on besoin? A-t-on besoin d'être enseigné à nouveau? Parce que quelque temps de ça, je me suis replongé, j'ai retrouvé des cours de maths de lorsque j'étais en prépa. Ben, on m'aurait parlé de chinois, ça aurait été à peu près la même chose. J'aurais besoin d'être enseigné à nouveau sur les lois de Bernoulli, etc. J'en ai aucune envie. Parfois, on a tous besoin d'être enseigné à nouveau et de réapprendre à connaître Dieu, parce qu'il est le fondement et l'essence de notre foi. Quoi a-t-on besoin? D'élargir un petit peu?
Parce qu'on s'est rétréci. Parce que quelque part, on a rétrogradé. Je ne veux pas le dire, c'est un gros mot dans les églises. Il n'y a que ceux qui sont dehors qui rétrogradent. Nous, on ne rétrograde jamais, on est assis là. Pas de problème. C'est n'importe quoi, et pourtant, c'est une réalité dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Tant qu'on est dans l'église, pas de problème. Ça ne veut rien dire. Il vaut mieux y être, hein, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, c'est un peu simpliste. A-t-on besoin de s'élargir ? A-t-on besoin de se perfectionner un petit peu ? Et le perfectionnement, il passe par la mort à soi-même. Il passe par le Jourdain. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien. Voilà quelques principes de croissance. Il y en avait d'autres, mais tant pis pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ta bénédiction. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la croissance. Tu es le Dieu qui nous fait, Seigneur mon Dieu, grandir, évoluer, Seigneur, et surtout évoluer à ton image. Merci, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit en nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes et pour le bien que tu nous fais. Seigneur, donne-nous de savoir à quelle étape, de quoi nous avons besoin, Seigneur, et que surtout ton esprit nous y conduise. Nous reconnaissons, Seigneur, que par nos propres forces, nous ne sommes pas capables. Nous reconnaissons que, Seigneur, mon Dieu, par notre propre volonté, nous ne pouvons rien changer, pas un iota, ni quoi que ce soit. Mais ce que nous reconnaissons, c'est que notre Dieu est tout-puissant. Alors fais-nous grâce, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs, et que dans les jours, les mois, les semaines à venir, il y ait une croissance, Seigneur, évidente. Seigneur, et que les progrès de tous soient évidents, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Amen.